À Canalem, on aime l'été.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jeudi 15 août, il est 11h30. Emmanuel Robitaille avec vous. Et c'est pas François Brodeur à mes côtés.
Eh et... oui, voilà. En fait, on va vous expliquer.
On n'a tellement pas été loin.
Si vous écoutez cette émission en balado-diffusion, vous avez l'impression qu'on vient d'arriver. Mais ça, Emmanuel et moi, ça fait déjà 2 heures qu'on anime au quotidien ensemble.
Effectivement, on a décidé de faire un blitz aujourd'hui où j'allais dans ton univers au quotidien. Tu viens dans l'univers d'Aime l'été en ce jeudi, qui provient d'une idée de début d'été que j'avais vraiment envie de co-animer une émission avec toi et on était exaucés. Donc, le petit bon Dieu de la radio est de notre bord. François, très heureuse de faire cette prochaine heure et demie avec toi.
Merci. Très heureux d'y être, bien entendu.
Merci d'avoir accepté ça.
Ceci dit, vous m'avez quand même chargé cette émission. On va vous parler notamment de Saint-Lambert en fête, un festival, vous allez voir, assez intéressant, juste de l'autre côté du fleuve, si vous êtes à Montréal, vraiment pas loin. Et non, vous ne pourrez pas l'écouter depuis l'île Sainte-Hélène. François Baruel nous parle quant à lui des bienfaits du chant, exercice physique, le chant. Et la nutritionniste Julie Aubé vient nous lancer des tomates, tout ça. Non, il y a autre chose aussi.
On a tellement d'affaires, ça finira jamais cette histoire, c'est pas vrai. Mais je vous ai préparé des petites chroniques quand même, très intéressantes, où j'ai appris énormément moi-même, à commencer par des habitudes alimentaires, à savoir... avant de partir en voyage. Parce qu'il y a certaines choses, des mœurs et coutumes, qu'on va aller chercher une fois rendu sur place, qui est super intéressant de s'imprégner. Peut-être qu'il y a des petites choses, par contre, que c'est le fun de savoir avant d'y aller. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Et pour la chronique spirituelle et développement personnel, positivisme, ésotérique, bien-être, pour être concise, je vais vous parler des 12 règles de vie du Dalai Lama. Et on va terminer avec toi,
j'aime
François.
J'aime ça quand vous êtes concise.
C'est genre...
ça rentre pas en moins de 12 règles.
Et François, tu vas terminer cette émission en nous parlant de nouvelles juridiques insolites. J'ai très hâte d'entendre toutes ces choses qui vont nous faire dresser le poil sur les bras. Bienvenue à Aime l'été, tout le monde.
Tu ris si mal, tu ris de vide, des taches de vin sur ta chemise. Il y a deux boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, l'amour le manque la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes. Le menace de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien. Ça va comme ça, mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Menace de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien. Va voir les autres, je n'en pense rien. Je t'aime.
Cœur de pirate. Cœur de pirate qu'on pourra entendre à Saint-Lambert le 23 août, parce que oui, à Saint-Lambert, il y a moyen d'écouter des choses à l'extérieur. C'est quelque chose qu'on va tout de suite régler avec notre prochain invité, Jean-Pierre Doucet, qui est directeur artistique, oui, du Festival Saint-Lambert en fait. Alors, Monsieur Doucet, à Saint-Lambert, il peut parfois y avoir du bruit.
Ben, écoutez, bonjour d'abord, bonjour à tous.
Oui, je commencerai, je sais.
Non, pas du tout. Le Festival Saint-Lambert, en fait, existe depuis 5 ans, mais il y a une fête populaire à Saint-Lambert qui existe depuis maintenant 44 ans. Mm-hmm. Et depuis 5 ans, pour les visiteurs qui viennent nous voir, qui sont de plus en plus nombreux, d'ailleurs, l'an passé, on était près de 80 000 pour fêter le Festival Saint-Lambert, en fait. Mm-hmm. Alors oui, il y a du bruit, mais du beau bruit. Alors, on a une programmation, je pense, assez intéressante cette année. Jeudi, l'Aude, de vendredi, le Cœur de pirate, samedi, Sylvain Cossette, dimanche, Brindel. Et en tout, près de 80 spectacles pendant les 4 jours du festival.
Mm-hmm. La fête a lieu où exactement?
La fête a lieu au centre-ville de Saint-Lambert, sur la rue Victoria, mm-hmm. entre la rue Webster et le boulevard des Aulniers. Et au centre-ville de Saint-Lambert, il y a 3 très beaux parcs. Alors, c'est une fête urbaine, mais qui a lieu dans un environnement extraordinaire.
Oui, c'est le Saint-Lambert historique. Là. C'est vraiment le cœur de la ville, effectivement.
Mais, sincèrement, oui, parce que moi, je suis nouvelle sur la rive sud de Montréal. Si vous ne saviez pas, je ne suis pas quelqu'un qui connaît bien les environs. Je suis allée une fois à Saint-Lambert et je connais une rue, c'est la rue Victoria. Et c'est exactement où vous allez fêter. Fait que vraiment, vous avez choisi votre endroit pour les néophytes et les personnes qui ne savent pas du tout où elles sont. On ne peut pas vous manquer, il n'y a pas d'excuse.
On a déjà parlé des principaux spectacles du 22 au 25 août, mais la fête, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus que ça.
Oui, absolument. Vous savez, la fête de Saint-Lambert, en fait, c'est un festival à part entière. Donc, il y a un village pour enfants avec des jeux, village qui est très, très prisé des familles, parce que près de 40% des festivaliers au festival sont des familles 2 enfants. Mm-hmm. De 33 à 45 ans. Alors, c'est vraiment un produit qui est plus familial. On a de l'animation de rue qui vient rehausser l'aspect festif du festival. Alors, les amuseurs de rue viennent donner une couleur particulière au festival. Alors, c'est vraiment sympathique. On a 3 scènes, la scène des jardins, la scène RBC, la scène TD. Alors, on a des spectacles de jazz, un peu de populaire, des chansons. Alors, on a vraiment une programmation très large. Et au centre-ville de Saint-Lambert, beaucoup de restos et de cafés-terrasses. Alors, écoutez, passer 4 jours au centre-ville de Saint-Lambert, avoir tous ces spectacles-là en prenant un repas sur une terrasse, c'est magnifique. Et mm-hmm. il y a bien sûr la très célèbre braderie.
Voilà.
Il y a
donc
près de 80 commerçants qui sont sur la rue avec leurs différents produits.
Une vente de trottoir?
Oui. Mm-hmm. Oui, une vente de trottoir, une braderie, comme on dit en termes. Mm-hmm. Alors, et ça fonctionne très bien, parce que c'est la fin de l'été, donc c'est l'occasion aussi pour les festivaliers, pour les visiteurs, de faire des économies substantielles. On mm-hmm. s'entend qu'à la fin de l'été, c'est un changement important aussi pour les boutiques, les vêtements et tout à l'intérieur. Alors, c'est vraiment intéressant pour les gens qui courent après les urbaines. On en a pour tous et pour toutes.
C'est aussi une manière de diversifier sa journée. C'est-à-dire, on peut chiner en après-midi, rester pour un spectacle et profiter d'une Exactement. Terrasse entre les deux.
Mm-hmm. Exactement. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une entente de partenariat avec le réseau de transport de Longueuil. Et tous les transports du métro de Longueuil à Saint-Lambert sont gratuits.
Ce qui veut dire que
toute la durée du festival.
Si vous habitez Montréal ou même si vous venez de l'extérieur et que vous profitez d'un stationnement incitatif au métro Longueuil, exactement. Vous avez accès au site parce que évidemment on ne peut pas ramener des voitures de 80 000 personnes au centre-ville de Saint-Lambert.
Non.
Ça n'entrerait non. tout simplement
pas. Où j'ai été en tout cas. Où j'ai été, ça ne marcherait pas.
Alors, c'est sans frais.
Sans frais, c'est gratuit. On va sur le site du RTL ou sur le site du saintlambertenfait.com et on peut télécharger le visuel et c'est absolument gratuit. Alors, c'est vraiment. Et vous savez, quand on a la journée dans le car et puis qu'on a pris 2-3 bières, qu'on est allé voir un spectacle, mm-hmm. on apprécie de ne pas prendre nécessairement la voiture et puis conduire. Et nous, on encourage les gens. On diminue l'empreinte écologique et aussi on favorise le transport en commun pour les gens qui consomment de la boisson.
On parlait des familles tout à l'heure. Parlez-moi du village des enfants.
Alors, le village des enfants, c'est un village qui est aménagé dans le stationnement en arrière de la caisse des jardins. C'est avec plusieurs jeux qui correspondent à un petit village hyper sympathique pour les jeunes. Mm-hmm. Et il y a aussi un train qui se promène et qui fait du village des enfants toute la rue au complet. Mm-hmm. Alors, les jeunes sont dans le petit train, le conducteur, cheminot, bébé. Alors, c'est vraiment, vraiment sympathique. Et dans le village pour enfants, il y a un jump high, un genre de bungee, il y a des glissades, il y a... Écoutez, je vous dirais que la dernière étude d'achalandage nous dit qu'il y a 40% des gens qui viennent, qui correspondent presque au nombre de familles, vont essayer le village des enfants.
Ah, oh, c'est génial!
Ben oui, c'est très populaire.
Arriver sur le site en pratique, on fait ça vers quelle heure?
Ben écoutez, à partir, je vous dirais que les gens arrivent sur le site à compter de 10 heures le matin et bien sûr, les spectacles se terminent à 23 heures le soir.
Mm-hmm.
Je vous pose la question, M. Doucet, parce que c'est sûr que c'est le festival des festivals que j'appelle. C'est-à-dire qu'il y en a énormément. Il y en a partout. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Il y a cette nouvelle loi. C'est plus nouveau, mais quand même, on parle de cannabis. Est-ce que c'est permis sur votre site lors des festivals?
Alors, si vous êtes... Justement, je disais un article dans la presse aujourd'hui. La loi au Québec permet la consommation où il y a la consommation de cigarettes. Mm-hmm. Mais à l'automne, la loi va être resserrée et là, il va y avoir une législation qui ne permettra pas, semble-t-il, la consommation dans les festivals. Donc, il y a comme une zone grise, comme un vide juridique qui existe, qui va être comblé à l'automne. Mais présentement,
donc, la décision vous revient, c'est arbitraire actuellement?
Non, la décision ne revient pas. Les gens ont droit... Présentement, les gens ont droit de consommer dans les parcs le fumer, la cigarette et le cannabis. Mm-hmm. Mais à l'automne, on va changer cette loi-là et les gens n'auront pas le droit de consommer dans les festivals.
Écoutez,
si vous regardez, il y a vraiment un article intéressant ce matin. Il y a le Louise Beaudoin, que vous connaissez sûrement, qui est présidente du REMI, du regroupement des événements majeurs, ainsi que le directeur général du regroupement des événements majeurs, qui ont écrit une lettre de quelques pages Monsieur Legault, en lui disant, écoutez, c'est très particulier. Pour chaque événement, c'est sûr que le festival de la famille, c'est pas comme le festival Montréal, etc. Mm-hmm. Alors, on demandait au gouvernement de voir à ce qu'on essaie de légiférer en fonction d'une réalité très...
C'est un éclectisme qui est particulier, on va se le dire.
En fait, il faudrait vous laisser une certaine autonomie, prendre une décision.
Ben, c'est ce que je pense. Mm-hmm. Ce qui était suggéré dans la lettre, c'était aussi que l'on fasse des, comme pour les fumeurs, peut-être des endroits.
Mm-hmm.
Prédestinés,
oui. Oui. Alors, il peut y avoir dans un festival, un enclos ou un endroit qui est plus délimité pour éviter que les gens puissent... Tu es dans le milieu d'une foule, puis la personne à côté de toi ne fume pas du cannabis, ou ça l'incommode, je peux comprendre que ça peut...
Mm-hmm. On peut aussi comprendre la réticence si on a nos enfants avec nous en bas âge.
Oui, absolument. Mm-hmm. Comme disait Mme Beaudoin et le directeur général, c'est pas évident, parce que présentement, les gens peuvent fumer la cigarette dans les festivals, et ça incommode des gens aussi.
Mm-hmm. Ah oui, c'est à peu près la même grille d'analyse. Monsieur Doucet, je dois vous laisser ici, voyez-vous. Je voudrais pas le faire, par contre, sans vous avoir souhaité le soleil pendant 4 jours.
Alors, on vous invite tout le monde, salambertenfaite.com, venez nous voir, c'est un très beau festival.
Alors, le meilleur des succès, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci
au revoir. Au revoir. Merci, Monsieur Doucet. Just for the fuck of it, any joy it would bring. Honey, the look of it was as sweet as a sound. Your head tilt back, your funny mouth to the clouds. I couldn't hope to know that song and know its words. Wouldn't claim to feel the same we felt the first time it was heard. I couldn't name that feeling carried in that voice. Was it that or just the act of making noise that brought you joy? You don't have to sing it right,
Who could call you wrong? Put your emptiness to melody. Your awful heart to song. You don't have to sing it nice, but honey, sing it strong. At best, you'll find a little remedy. At worst, the world will sing along. So honey, sing. Put your emptiness to melody, your awful heart to song. You don't have to sing it nice, but honey, sing it strong. At best, you'll find a little remedy. At worst, the world will sing along. So honey, sing.
Dans tout mon élan prématuré qui était, ma foi, poussé par mon enthousiasme et mon amour que je porte à cette chanson, je vais vous dire que c'est The Noisemaking, Sing. On vient d'entendre du chanteur populaire Hozier qui nous avait donné le très gros hit Take Me to Church. Et c'est pour présenter ce topo qui a été préparé un petit peu plus tôt cette semaine avec François Baruel, qui nous parle, oui, des bienfaits du chant sur notre corps. Aujourd'hui, on parle de chant François Baruel.
Je m'appelle pas chant François Baruel, je m'appelle François Baruel.
Genre de... Bonjour François Baruel.
Bonjour Emmanuel.
Alors aujourd'hui, tu nous parles de chant François Baruel. François Baruel en studio pour parler santé encore une fois. Mais de chant, on parle de chant de blé ou...
Non, on va parler de chant mélodieux.
Oh.
Tel que tu es capable de le faire, toi, oh. N'est-ce pas?
Ça m'arrive. ça m'arrive. C'est une chose que j'aime faire. Donc, de quoi tu nous parles aujourd'hui par rapport au chant?
Ben, pourquoi est-ce qu'on aime chanter? Qu'est-ce que ça nous apporte de chanter? En fait, on s'aperçoit que chanter, ça provoque un circuit, évidemment, de la sécrétion de dopamine. Hein, ça, je pense que tu le savais.
J'irai avec la sérotonine aussi, puis j'irai avec l'endorphine également.
Oui, mais...
Je ferais un mélange hormonal assez...
oui, non, toi, c'est une triple dose.
Oui, il n'y a pas grand-chose, ça ne stimule pas, là, finalement.
Alors, ça, en fait, ça provoque des schémas et des...
Des cycles, des loops, des feedbacks.
Des loops, des feedbacks. Ça provoque des circuits, en fait. Ça provoque des mises en place de circuits cérébraux qui sont tout à fait nouveaux par rapport à la parole, par rapport à... Ça demande de mettre en connexion non seulement la parole, bien sûr, les mots, mais aussi la modulation. Et tout ça, ça demande un travail énorme pour le cerveau. C'est quelque chose de tout neuf. Quand on ne chante pas d'habitude, on n'est pas habitué. On travaille beaucoup plus que lorsqu'on est habitué à chanter comme toi, bien sûr. Et on s'est aperçu que ça générait des zones de l'activité dans des zones de l'IRM.
L'IRM qui est l'imagerie de résonance magnétique. Donc on voit.
Quand on se met à chanter, ça illumine énormément de zones, les zones motrices, les zones et aussi des zones de la mémoire et de l'émotion. Donc ça fait marcher. Et même si on ne chante pas et qu'on pense qu'on chante, qu'on imagine chanter, ça illumine les mêmes zones.
Ça fait la même chose, ouais. qu'on se l'imagine ou qu'on le
Exactement,
fasse.
Exactement, voilà. C'est ça.
Donc, quand on est chanteur et qu'on a une extinction de voix, on peut se pratiquer à l'intérieur. Pareil, il y a des choses qui se créent. Non, mais c'est vraiment vrai.
Tout à fait.
Et j'avais lu justement aussi que on parlait beaucoup de lecture de la musique, entre autres ceux qui lisent les notes sur une gamme pour une partition, par exemple, que c'est une des seules activités qui relie les deux hémisphères du cerveau.
Ah bon?
Ensemble.
Ça, je ne savais pas.
Et donc, c'est extrêmement intéressant pour ce qui est de l'interconnexion hémisphérique. Et ça se passe dans le corps calleux. Donc, le corps calleux qui est une zone qui colle nos deux bouts de cerveau ensemble.
C'est vraiment ça.
Mais quand on y pense, c'est qu'on a tout le côté parole, lecture, donc tout ce qui est cerveau plus rationnel, analyse. Mm-hmm. Puis tu as aussi tout le côté créatif et émotif que tu viens de nommer.
Ouais. Et donc, ils se rejoignent.
Puis
tu
as parlé de dopamine. Donc, la dopamine est très reliée au circuit de plaisir, aux addictions également.
Et c'est ça, donc on est addicté, en fait, les chanteurs professionnels sont des addictés.
Ah, c'est ça!
Mais c'est ça, maintenant t'as compris.
C'est ça.
Et alors, attends, c'est une telle hormone de plaisir que tout de même, on parle bien du frisson, de la chanson et le frisson. Et donc, certains n'hésitent pas à le comparer à une certaine forme d'orgasme.
Mais tout à fait, puis la chair de poule, c'est physique, c'est ressenti. Là.
Ouais.
Et tu parlais des gens qui, n'importe qui peut chanter. Je pense qu'on doit chanter simplement aussi parce que je crois, si je ne me trompe, que ça travaille beaucoup la respiration. Et juste ça peut calmer beaucoup.
Ça calme énormément, exactement comme une séance de yoga dans laquelle on étudie sa respiration et on apprend à respirer en rythme et dans le bon rythme, en harmonie avec soi. Et ça apporte aussi de l'altruisme, puisqu'en fait, il y a un grand plaisir à chanter dans une chorale. Si on peut chanter tout seul, bien sûr, dans son bain, on peut chanter aussi sur scène. Mais on peut chanter aussi sur scène à plusieurs, dans une chorale. Et à ce moment-là, on se sent infiniment bien parce qu'on est, dans un groupe et on se sent inclus dans le groupe grâce à cette activité commune. Donc, c'est le chant lui-même a quelque chose de social. Et améliore.
Et de relationnel,
De relationnel. Et fait passer le blues, notamment. De cette manière, t'as plus de blues. D'ailleurs, les chanteurs de blues ont-ils le blues?
Sincèrement, je ne saurais te dire. Mais c'est intéressant parce que dans des moments de tristesse ou d'émotions plus négatives, effectivement, puis c'est biologique, tu l'as nommé la dopamine. Mmh. S'il y a une sécrétion de dopamine, ça peut aider énormément sur le plan de l'humeur.
Ben oui, bien sûr. Bien sûr.
Donc, on fait quoi? On chante plus souvent?
Il faut chanter plus
souvent.
Plus
longtemps? Est-ce qu'il y a des durées? Qu'est-ce qu'on...
Alors, en fait, on peut chanter une vingtaine de... Il y a encore une autre chose qui est très amusante qui me revient. C'est que si on fait des gammes, qu'on est ronfleur, on peut faire des gammes une vingtaine de minutes par jour et ça permet de faire diminuer ou de faire disparaître ces ronflements. C'est très étonnant cette histoire. Oui.
Et là, tu parles de gammes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
Oui, si tu fais des gammes, tu sais, tu chauffes ta voix. Tu te fais des gammes, etc. Tu t'entraînes. Et eh bien, ça permet, dans certains cas, dans pas mal de cas, de diminuer les ronflements, voire de les supprimer.
Est-ce qu'on sait comment. C'est quoi le mécanisme?
On ne sait pas. Et ça, c'est juste des constatations. Et bon, scientifiquement, je ne sais pas.
Un peu accidentel, je veux dire.
Peut-être, c'est pas.
Mais j'espère qu'ils vont investiguer alors tout le monde.
Oui, parce que c'est très intéressant. Comme
attention tout le monde, de faire des gammes pendant 20 minutes tous les jours pourrait supprimer tout ronflement potentiel. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre que de l'essayer. En plus, ça nous rend heureux.
En gros, c'est la paix des ménages.
écoute. Vive le chant.
Vive le chant.
Merci, François. Merci. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say, tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet. Giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shutting it down, good lord. Baby got them open.
open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the town. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it,
no diggity.
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
Bag it up, girl.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
She's got class and style. She knowledge by the pound. Baby never act wild. Very low key on the profile. Feelings is a no. Let me tell you how it goes. Herbs the word, spins the verb. Lovers it curves so free. What you heard? Rolling with the fatness. You don't even know what the half is. You got to pay to play. Just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it. Trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time. Baby, I can get you in my ride.
I like the way you work it.
Yeah. No diggity.
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
Oh,
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
Bag it up, babe.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
First class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't be a thing. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake boards? I shows and proves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a player's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block. I'm as real as can be. Word is on. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to Yogan and Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen
no
and Black.
No diggity, no doubt, baby.
I like the way you work it.
Vous écoutez M l'été.
Même l'été avec Emmanuel Robitaille et François Brodeur, le duo de feu qui fait un blitz depuis ce matin, 9h30.
Oui,
on a commencé
là.
Au quotidien ensemble et on continue. Même l'été en cette journée spéciale du 15 août et ce qui s'en vient à l'émission, Julie Aubé pour sa troisième présence à Même l'été avec son grand projet qui est Prenez le chant. Cette fois, nous invite aux tomates qui aura lieu le 30 et 31 août, activité très spécifique, on va en apprendre plus avec elle. Et je vous parle d'habitudes alimentaires à savoir avant de partir en voyage, beaucoup plus pratique que pendant.
Au Edmond, il est au des corons du côté de Fougères. Bien à vos hachés, après ces journées, d'aller travailler d'un gardien de Saint-Père. Pour s'en échapper, il se dit je vais me marier. J'ai été vite fait, il est au poids vilain. Allez, taux pelote, un petit peu lolote. Mais pour la popote, elle n'y connaît chaud rien.
Il mange des tomates, des tomates, des tomates. Et je prends garçon, il s'avoue bien, qui est tout marqué par le destin. Mais il se dit oh, pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons.
Chalvaux arrivé, il a tout plaqué. Il s'en est allé pour trouver le bonheur. Chez ta Carpentras, qu'un jour il trouva quelque course qui est au proche, un métier de mineur. D'un chez Pays-là, un réclame des bras. Pour dire que je sais pas le boulot qu'il est tu. Du matin au soir, comme un frais de bagnard, Yéto se trimare, il n'en pouvant plus.
Il porte des tomates, des tomates, des tomates, et je pense garçon, il savoure bien, Yéto marqué par le destin. Pays ciseaux pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons.
Avant ma foi, un bio filet de voix, alors c'est pour ça qu'il voulut canter. Il a pris des canchons, juste un accordéon, des micro-sillons, ça le faisait rêver. Il veille déjà, Paris, l'Olympia, un plage en sultan, Johnny Hallyday. Mais le jour qu'il canta d'un vieux cinéma, alors il arriva, ce qui de mot arrivait.
Des tomates, des tomates, les chevaux garçons, ils savent bien, qui est au marqué par le destin. Mais ils disent pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons.
À toutes les misères qu'il a eues sur terre, y a pas pu s'y faire, y a pas résisté. Et chez ta fouquière, tout près de son grand-père, dans le vieux cimetière qu'il est enterré. Chez par amitié, l'autre jour en asmé, des belles chiottes pincées, il est j'aime autant. Quand t'en es retourné, deux, trois mois après, on est tous restés comme de ronflants.
Il pousse des tomates, des tomates, des tomates. Les chevaux garçons, ils savent bien, j'ai tout marqué par le destin. Mais un stigeau pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons.
Renaud qui nous chantait les
tomates. Préf.
Oui, Renaud, effectivement, c'est un de mes préfs qui nous chantait les tomates. Et c'est tout à fait dans le thème, puisqu'on va notamment parler de tomates avec notre prochaine invitée, Julie Aubé, que je retrouve avec plaisir. Elle s'en rappelle probablement pas parce que c'est l'effet que je fais aux filles. Mais Julie et moi, on a déjà été co-chroniqueurs à CIBL sur l'émission du retour. Julie Aubé, bonjour.
Bonjour.
Bon, vous vous rappelez pas de moi, hein?
Ben, pas tellement.
Voilà, je le
savais. D'avoir été chroniqueuse à CIBL, par exemple, ça, c'est sûr, mais...
Alors, je le savais, j'étais à votre gauche à la table et je m'occupais des nouvelles à l'émission du retour, moi, voilà.
Ah, ben, voilà, avec un peu de contexte, déjà, ça aide.
Ah, hein? Tu vas te faire pogner, elle va s'en rappeler.
Oui, oui. Non, mais je le prends pas pareil, OK? Je vais être mean pendant l'entrevue,
ouais,
sachez-le.
Oh non.
Julie, mais vous êtes porte-parole de la Semaine québécoise des marchés publics. Et là, vous nous parlez d'achat local, de merveilleuses expériences autant que de consommation raisonnable.
Oui, absolument, parce qu'en fait, les marchés publics, c'est une occasion, surtout en pleine saison d'abondance, comme maintenant, en plein milieu du mois d'août, de faire provision d'aliments qui sont non seulement extrêmement frais, avec une grande variété, mais aussi qui ont une traçabilité. C'est-à-dire que quelque chose d'unique au marché, c'est les rencontres avec les producteurs, les artisans gourmands qui sont sur place, qui se déplacent en un lieu commun pour nous donner accès à une alimentation de qualité et de proximité. Donc ça, c'est super précieux. Puis c'est ce qu'on célèbre cette semaine avec la Semaine québécoise des marchés publics.
Et ici, vous permettrez aux Montérégiens de dire quelque chose, aux Montréalais en général. Demander un maïs cassé du matin, c'est pas du tout la même chose que de l'acheter après un transport et une réfrigération.
Absolument pas.
La fraîcheur, là, en général, c'est vrai pour le maïs, c'est vrai pour un paquet d'autres produits. Ça change, en fait, complètement notre perception des produits. Souvent, quand on est habitué de manger des aliments qu'on se procure dans des magasins à plus grande surface et qui auront subi, en fait, un déplacement, un entreposage, une exposition à la lumière longtemps sur des tablettes. Mais imaginez goûter le même aliment cueilli du matin même. Ça fait toute la différence, cette fraîcheur-là.
Mm-hmm. Et on peut découvrir et discuter avec les producteurs aussi. Parce qu'il faut le dire, souvent pour certains légumes, ben, ou certaines variétés de légumes, on les trouve beaux, mais on ne sait pas comment on les trouverait bons.
En effet.
C'est vrai.
Puis c'est super intéressant de mentionner ça parce que ça souligne l'importance puis l'intérêt des échanges qu'on peut avoir avec les agriculteurs sur un marché public. C'est que l'aliment, en fait, qu'on ramène à la maison, quel que soit-il, en fruits et légumes, mais ça peut être viande, pain, fromage, il y a de tout sur les marchés publics. Et ces aliments-là qu'on ramène, en fait, ils sont plus anonymes. Ils ont une histoire, un visage, on les aura associés des villages, des paysages, des explications. On peut poser nos questions. Et puis, il n'y a pas personne de mieux placé que les gens qui produisent les aliments. Ils les connaissent extrêmement bien, leurs produits, pour nous en parler, nous suggérer des façons de les cuisiner, de les apprêter, de les conserver. Parce que c'est une autre chose qui est super intéressante à mentionner, c'est que maintenant, on est en pleine saison d'abondance des produits québécois. Maintenant, ils sont beaux, ils sont frais, ils sont pas chers non plus. Donc, c'est un moment idéal pour aussi en faire des provisions pour les mois qui seront moins généreux à venir. Donc, pensez-y aussi.
La conserve ou d'autres techniques de conservation?
La conserve, si on a le temps, si on a le goût, si on a les habiletés pour le faire, bien sûr, marinade, sauce, compote, confiture et compagnie, mais également tout simplement la congélation. On parlait du maïs il y a un instant, ça se congèle super bien, puis on va retrouver vraiment le goût estival quand on va sortir ces sachets-là plus tard pendant l'hiver. Ça peut être des gens qui vont se lancer dans sécher certains produits. Il y a des légumes de conservation qui se gardent très, très bien quand les conditions sont réunies. Donc, il y a plein de façons à découvrir. Puis ça aussi, discutez-en avec les producteurs à savoir quelles sont les meilleures façons de conserver leurs produits.
Oui, j'ai le souvenir d'une productrice, en fait, de Gourgane, à qui j'avais demandé ce qu'on faisait avec ça, et qui, après m'avoir traité de gigon, m'avait indiqué comment faire une soupe, et je la remercie encore, d'ailleurs, parce que ça fait partie de mon ordinaire, la soupe aux Gourgane, maintenant.
Intéressant. C'est ce qu'on apprend, on le garde avec nous après, effectivement.
Vous allez être vous-même très, très, très occupé pendant cette semaine-là, puisque vous allez faire une tournée de différents marchés.
Absolument. En fait, la tournée, elle est bien commencée. On est en milieu environ, c'est 18 au 18 août, hein, la semaine sur les causes de marché public cette année. Donc, on tire à sa fin avec la dernière fin de semaine. J'aurai visité la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, le centre du Québec, la Montérégie. Aujourd'hui, j'arrive en ce moment même qu'on parle dans la région de la Mauricie. Je serai au marché de Trois-Rivières cet après-midi. Et donc, je tiens un kiosque dans ces marchés-là pour parler avec les gens de tous les avantages des marchés publics, souligner ces avantages-là, parce que des fois, on va au marché un peu comme une routine, mais de se rendre compte à quel point on est chanceux d'avoir des marchés sur le territoire, c'est important d'en prendre conscience. Donc, on s'amuse aussi. J'ai un quiz sur la culture alimentaire. J'ai des petits prix à remettre aux gens. Des cartes de gratitude également, qui est un super beau projet. On a des belles cartes à remettre aux gens qui viennent me voir à mon kiosque. Mais le but, c'est que les gens prennent ces cartes-là et aillent les remettre à un marchand de leur choix pour lui dire merci d'être là. Donc, si on dit qu'on est chanceux d'avoir des marchés, bien, on a des marchés parce qu'il y a des producteurs et des artisans gourmands qui s'y déplacent. Donc, on transmet des beaux merci puis notre gratitude envers tous ces producteurs-là de se rassembler, en fait, pour que nous, on puisse bien manger.
Je ne voudrais pas vous amener sur un terrain plus polémique, mais on voyait cette semaine dans l'actualité qu'au marché Jean Talon, on se plaint d'une certaine désertification des étals, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de marchands. C'est un phénomène urbain, une erreur de planification ou un désamour?
Un désamour!
Je ne suis pas la meilleure personne pour élaborer là-dessus parce qu'effectivement, je n'ai pas été beaucoup à Montréal durant l'été. Je suis plutôt partout à travers le territoire. Cela dit, à Montréal, Jean Talon, c'est mon marché. J'y vais régulièrement et puis je n'ai pas de difficulté à m'approvisionner directement des gens qui sont des fermiers et qui sont sur place, mais certainement qu'il y a plusieurs revendeurs également. Quand on cherche à acheter directement d'un fermier, on choisit bien ses kiosques, mais il y a tout à fait moyen de le faire, puisque j'en témoigne, je le fais. J'achète directement de fermier au marché Jean Talon et je m'en réjouis.
L'autre question qui m'inquiète, je voyais votre tournée, effectivement, qui vous a amené à Amqui, à New Richmond, à Drummondville. Ça arrête où pour vous, l'achat local? Parce que
écoutez, il n'y a pas de définition universelle nécessairement. Il y en a qui vont établir des nombres de kilomètres et tout. Je pense que le mot-clé à retenir, c'est la proximité. C'est-à-dire que quand j'ai passé un certain nombre de jours en Gaspésie, mais j'ai mangé des aliments gaspésiens.
Exactement.
Alors que j'étais en Gaspésie. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, je suis en Mauricie, mais mes prochains jours, mon menu va être composé d'aliments de la Mauricie. Donc, c'est pas pendant que je suis en Mauricie que je mange les aliments de la Gaspésie. Mm-hmm. Donc, pour moi, il y a quelque chose de plus régional au terme achat local. Mais après, il y a des produits pour lesquels, imaginez, par exemple, le homard, ben, il y en a pas beaucoup en Mauricie. Donc là, oui, effectivement, il vient de la Gaspésie parce que c'est le plus proche qu'on peut avoir. Donc, je pense que l'achat local a quelque chose de relatif selon le type de produit dont on parle. Mais pour tout ce qui est aliments, disons, de très base, là, tout ce qui est fruits, légumes, viande, d'élevage d'animaux en liberté, fromage, à peu près toutes les régions du Québec ont ben, peut-être pas pour chacun des produits, mais je sais qu'il y a des régions qui ont moins de fromagerie. Mais en général, si on regarde les fruits, les légumes puis les élevages, peu importe où est-ce qu'on est au Québec, on est capable d'avoir des producteurs régionaux. Puis ça, pour moi, ben, c'est de l'achat de proximité. Puis c'est ça le mot clé, finalement. C'est d'aller au plus proche qu'on peut. Puis quand on est au marché public, ben, ce sont des producteurs des régions qui sont présents. Donc, aujourd'hui, en Montérégie, en Mauricie, tout à l'heure, sur le marché de Trois-Rivières, ben, ce seront des producteurs de la Mauricie qui seront sur place. Donc, on n'a pas tant à se casser la tête quand on visite un marché public. Probablement que c'est plus vrai pour les marchés qui sont en dehors des grands centres urbains. On évoquait Jean Talon tout à l'heure. Mais quand on visite les marchés publics de notre secteur ou des routes qu'on visite pendant les vacances d'été, puis qu'on s'arrête au marché public, ben, on le sait que c'est des aliments régionaux qui nous sont offerts.
En terminant, on se lance des tomates ou on fait quelque chose de spécial avec?
On évoquait un peu la conservation des saisons tout à l'heure. Hein, le mois d'août, c'est aussi le moment de commencer à faire ses conserves. Puis la conserve de tomates, je trouve que c'est une belle idée puisqu'on en consomme beaucoup de la sauce tomate à longueur d'année. Donc, pourquoi pas apprendre à faire ces conserves de tomates? Et c'est une des activités que je propose dans le cadre de mes événements Prenez le champ. Donc, des événements qui ont lieu en milieu agricole avec une activité spéciale d'apprentissage dans un contexte de plaisir. Il reste des places pour le vendredi 30 août seulement.
Et comment
donc,
on s'inscrit?
Quelques places. On s'inscrit sur mon site julieaubé.com dans l'onglet Prenez le champ. Et c'est une belle journée, dans le fond, où on apprend avec l'agricultrice qui cultive des tomates à faire de la sauce tomate maison à partir de ces tomates et on apprend à les mettre en conserve.
Eh bien, Julie Aubé, merci d'avoir été avec nous et pas merci de m'avoir presque oublié. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai gardé. Là, c'est fait. Merci
mais
et bonne fin. Bonne fin de semaine des marchés.
Merci,
donc.
Julie.
Merci. Bon marché à vous. Au revoir.
Bye bye.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir. Parce que j'ai pas envie, on s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. J'suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, y'a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. J'ai des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste.
comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas, et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi.
Benabar, le dîner, un choix cruel pour nous qui, justement, sommes en studio et pas en train de dîner.
On mange juste des barres tendres à répétition. On va dévoiler nos secrets. On a mangé beaucoup de jujubes et de barres tendres, puis on a bu un petit peu plus de café qu'à l'habitude, quand même, François.
Et ceci dit, on parle de dîner parce qu'on parle de manger, manger ailleurs, et c'est juste pas ça, je mangeais proprement, là.
Non, en fait, c'est que si on voyage, c'est intéressant d'apprendre une fois rendu dans notre pays d'accueil. Oui, apprendre les mœurs et les coutumes, c'est enrichissant, surtout quand on les apprend par les gens qui habite. Je trouve qu'on a une immersion beaucoup plus vive dans toutes ces nouvelles traditions-là. C'est intéressant. Par contre, il y a certaines choses qui sont bonnes à savoir avant de partir, qui sont clairement dans la catégorie contre-indication. Et bon, surtout sur le plan de la nourriture, parce que c'est un moment qui est souvent jugé comme social, et ce, dans plusieurs cultures, c'est pas mondial. Je me demande où, sérieusement, manger. Ça existe, mais c'est très répandu que le moment de se rassembler autour d'une table, c'est un moment social. Et qui dit social, ça implique grandement les aspects culturels propres à la région qu'on visite, et ça implique qu'on va être avec du monde aussi quand on va manger. Des grosses chances. Donc, en voici quelques petites choses à savoir
Dans
la catégorie « Fais-moi pas honte », puis j'aimerais s'en revenir. Il y a des suggestions qui sont directement tirées du site voyageetloin.com qui nous invite à savoir ces petites choses-là. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas mort d'homme, hein, comme dit l'expression québécoise. Simplement que c'est intéressant. Puis tu pourras me dire aussi s'il y en avait que tu savais ou si tu en aurais à rajouter, François, quand même, parce qu'on n'est jamais assez instruits. Disons-le ainsi. En Thaïlande, ne mangeons pas avec notre fourchette. Et ça me désole énormément parce que je ne maîtrise pas la baguette. Sérieusement, je suis vraiment pas bonne. Je m'appelle Emmanuel, je ne suis pas manuelle, je suis pas capable. Mais un repas thaï, c'est typiquement des plats au centre de la table pour tout le monde. Et il y a une portion de riz, elle, qui est individuelle. Et on se sert de la cuillère du plat lui-même dans le milieu de la table pour se servir notre portion individuelle. Donc, pas la nôtre, pas notre cuillère, encore moins une fourchette. La fourchette, là, elle sert uniquement, tu le sais?
C'est un ustensile, mais et non pas un couvert, c'est-à-dire on s'en sert en cuisine.
Oui, mais on s'en sert uniquement comme outil pour pousser la nourriture dans la cuillère. Et la cuillère, elle, est faite pour manger.
Ah!
Ça, c'est en Thaïlande.
OK.
Dans la culture arabe et pour les animistes, un animiste, la croyance que tout a une énergie, une force, un esprit, tant les choses vivantes qu'inanimées, le vent, les végétaux, tout est vivant. Donc, tant dans la culture arabe et pour les animistes, il est préférable de ne pas manger de la main gauche. Et ça, tu me l'as dit ce matin. Tu la connaissais, celle-là?
Oui, il y a une raison tout à fait hygiénique à ça. Il faut se rappeler d'abord que dans un banquet arabe traditionnel, les hommes, parce que ce sont les hommes qui mangent, on ne sait pas comment les femmes mangent dans ce pays-là, les hommes sont en rond autour d'un plat commun et tout le monde se sert de la main droite. Et s'il y en avait un de la main gauche, d'abord, il serait directement face à face à son voisin derrière. Ensuite, la main gauche, elle est réservée à des usages, plus hygiéniques.
Et sanitaires.
Ça fait que si on vous voit manger avec votre main gauche dans le plat commun, tout le monde va...
C'est littéralement celui qu'on se sert pour s'essuyer lorsqu'on va à la toilette, on va le dire. Là.
Voilà. Mais j'osais pas, là. Mais
moi, je suis game. Moi, j'y vais all-in. Donc, voilà. Donc, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, il y a certains endroits où la main utilisée pour manger est importante parce que la main, l'autre main, et là, on parle de ça, mais il y a peut-être d'autres choses ailleurs qu'on ne sait pas, et simplement vérifier les usages de base de chacune des mains pour vérifier ce qu'on doit utiliser. Mais effectivement, en Égypte et plusieurs autres endroits, finir son assiette signifie qu'on n'a pas assez mangé. Donc, à chaque fois qu'on finit notre assiette, d'autres nourritures vont nous être servies jusqu'à explosion. Mm-hmm. Donc, s'assurer de prévoir et de se garder un petit jeu dans l'estomac pour continuer à profiter de notre soirée, pas finir un petit peu couché, malade.
Alors qu'ailleurs, ne pas finir son assiette, c'est signe qu'on n'a pas apprécié.
Ça, oui, genre ici. Mm-hmm. Ici, si on en laisse dans l'assiette, c'est que t'aimais pas ça. Des fois, je trouve que c'est moins qu'avant. Mais avant, ça arrivait plus fréquemment. C'est vrai. Et moi, j'étais quelqu'un d'un enfant extrêmement difficile. Fait que c'était souvent vrai que j'avais pas aimé ça. Fait que ça me rendait super mal à l'aise. Ça m'a créé des traumatismes. Ceci étant dit, en Chine, rôter à table permet de voir que le repas a été apprécié également. Donc, un petit peu, ici, c'est pas que c'est zéro apprécié à l'appréciation du repas. On comprend qu'un gaz est un phénomène naturel. Le rot est un phénomène naturel de gaz du corps et de digestion. Mais quand même, des fois, juste le sortir avec élan et sans retenue, ça permet de démontrer une appréciation plus vive de ce qu'on vient d'ingérer. Surtout quand on est invité, c'est intéressant. On demeure en Chine. C'est mal vu de retourner son poisson dans son assiette pour manger l'autre côté. Parce que si on a un poisson complet, il y a l'arête dans le milieu et souvent on peut avoir tendance à vouloir le retourner pour aller manger la chair qui est de l'autre côté. Il y a une superstition chinoise qui provient de la ressemblance phonétique entre le mot qui signifie « malchance » et le mot qui signifie l'expression qui désigne de tourner son poisson dans l'assiette. Donc, on a fini par se dire que si on le fait, ça porte malheur.
De tourner son poisson.
Exactement. Donc, il ne faut pas faire ça parce que tu es en train de semer des...
Et s'étouffer avec une arête, ça?
Ah, ça, tu vois, j'ai pas lu là-dessus encore.
Okay, non, je pose la question.
Finalement, encore en Chine, ne jamais pointer quelqu'un avec nos baguettes. C'est une insulte grave. Donc, si on a tendance, comme moi, à gesticuler beaucoup quand on parle, hein, peut-être que c'est préférable, c'est parce que si le risque est trop grand à un moment donné, là, il y a vouloir puis il y a pouvoir.
Posez vos baguettes.
On s'abstient de parler en mangeant ou on s'abstient de manger, c'est selon. Mais vraiment s'assurer de ne pas avoir des baguettes dans les mains quand on gesticule et ne pas pointer quelqu'un. Au Mexique, ne jamais manger nos tacos avec une fourchette et un couteau, on pourrait se faire juger comme une personne qui mange un hamburger avec autre chose que ses mains. Ici, c'est vraiment pas cool, en fait. C'est ce qu'on comprend, c'est que c'est pas cool de manger ça comme ça. En Angleterre, c'est le contraire. Manger une banane, en Angleterre, ça a l'air... Tu le sais?
Non, je savais pas, mais ça m'étonne à peu près pas.
C'est vrai, parce que tu achètes la tête. Moi, vraiment, ça m'a surpris qu'une banane, ça se mange avec les ustensiles, couteau, fourchette. On coupe la banane. Ben, voyons.
Ben oui, c'est ce qui nous distingue des grands singes quand même, hein? Oh!
Moi, une des formes pour calculer l'intelligence, entre autres, entre les espèces, actuellement, un des critères, c'est la capacité à utiliser des outils.
Oui, et ben, les chimpanzés le font. Mais à propos des bananes, tellement... je vous invite à regarder un gorille manger une banane parce que c'est fascinant. Pendant des années, j'ai ouvert ma banane par le bout, vous savez, où il y a l'espèce de petit bout de tige sec, là. Si vous l'ouvrez par l'autre extrémité, là où il y a la fleur, comme le font les gorilles.
Oui, c'est super facile.
C'est tout simple.
C'est merveilleux. Une petite pression au bout, là. On ne le fait vraiment pas correctement. C'est vrai qu'on ne le fait pas correctement. En Corée, ne jamais regarder les anciens, entre guillemets, quand on boit de l'alcool. Alors, donc, de ne pas regarder nos aînés quand on ingère de l'alcool, c'est une forme de respect. On doit plutôt se détourner pudiquement et boire en tournant le visage vers la gauche, comme pour se cacher. Et c'est une tradition qui est encore énormément respectée par les jeunes Coréens. C'est pas quelque chose qui est en train de disparaître, c'est encore extrêmement appliqué. Donc, si on sort ou si on est dans un restaurant et qu'on a de l'alcool qui nous est servi, juste s'assurer qu'il n'y ait pas d'aînés qui nous regardent en train de boire, parce que c'est la base. Encore en Corée, c'est également l'homme le plus âgé autour de la table qui doit manger en premier. Donc, si vous n'êtes pas celui-ci, il faut attendre. En Russie, rien, en majuscule, rien ne doit être mélangé à la vodka. Même pas de la glace. C'est considéré comme sale et impur. Moi, et c'est là que je me passerais vraiment de vodka parce que moi, à part dans beaucoup, beaucoup de limonade, un drink de fille, mais vraiment, non, je pourrais pas, non. Au Japon, ne jamais planter nos baguettes droites dans le milieu du riz. Pourquoi, selon toi?
Ah, je sais vraiment pas.
Ne jamais planter au Japon nos baguettes droites dans... Pas la baguette qui va dans le bras droit, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de côté dans les baguettes, mais les piquer en position droite dans le riz.
Parce que le bol pourrait sortir au complet?
Non, c'est parce que c'est une tradition qui est associée aux funérailles. Donc, préférablement, les redéposer sur la table. Si on doit déposer quelques instants ou si on a fini, c'est à conseiller. Donc, tu vois, c'est quelque chose que j'aimerais, je suis contente de savoir avant de me rendre.
Mm-hmm.
Oui. Ça crée un malaise. C'est juste vraiment un malaise, long.
Ou ça fait rire, ça dépend des combines.
Ça dépend qui est là, c'est sûr. En France, on ne doit jamais couper les feuilles de laitue avec un couteau. Les feuilles doivent rester intactes, entières ou du moins en morceaux, mais le morceau qui a été déchiqueté peut-être à la main au préalable doit rester entier dans l'assiette et ça doit plutôt être replié avec la fourchette dans un format qui convient à notre cavité buccale.
Donc, corollairement, si vous faites une salade en France, essayez de penser aux gens qui ne pourront pas la déchirer, la découper ou...
C'est ça.
Parce que non, ça peut devenir cruel.
En Italie, ne jamais couper ses pâtes, bien sûr, mais moi, je suis vraiment encore comme un enfant de 5 ans. Là. Je coupe toutes mes pâtes encore. J'aime ça. J'arrêterai jamais. Et non, mais là, je dis ça, on le sait jamais. En Italie, il ne faut jamais demander un supplément de fromage, à moins qu'il nous soit offert. Sinon, pas d'extra. Il n'y a pas d'affaire de « tu demandes plus de fromage ». Au Portugal, c'est le sel et le poivre qu'on ne doit jamais demander, à moins qu'ils soient déjà sur notre table. Sinon, c'est une insulte grave au chef qui a lui-même pris la peine d'assaisonner notre repas à la perfection. Et finalement, en Tanzanie, c'est considéré comme impoli d'arriver à l'heure à un dîner. Il faut plutôt opter pour un 15, voire un 30 minutes de retard.
En France aussi, hein?
J'ai cherché pourquoi, je ne l'ai pas trouvé, mais c'est ça, tu vois, ça me plaît.
En France aussi, c'est la norme. On arrive, arriver à l'heure, c'est considéré presque comme impoli.
Ben, gars, mieux vaut tard que jamais, hein? C'est ça, long.
Vous écoutez Aime l'été.
Et vous êtes toujours avec François Brodeur et Emmanuel Robitaille. Au cours de la prochaine demi-heure, on s'interroge sur les règles de vie que propose Dalai Lama et on se penche sur la justice qui sait faire face au ridicule.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. And forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone.
dans l'environnement pop de Dua Lipa, qui nous chantait New Rules, ou comme dans les nouvelles lois, les nouvelles règles, les nouveaux règlements, les nouvelles règles.
Eh oui, et vous voulez ramener ça à 12 règles.
Eh, mais il faut le dire que tu me vous vois. J'en reviens pas. Mais je te tutoie, moi, c'est correct?
Non, non, mais c'est correct. C'est votre génération. Mais non, en fait, de ramener à 12 règles, voyez-vous, je suis juriste, moi, des règles, j'en connais des milliers ou à peu près. Alors, de pouvoir synthétiser ça en 12, j'ai hâte de vous entendre.
Ben, c'est pas mes règles de vie. Ce sont les règles du Dalai Lama qui, rien de nouveau sous le soleil. C'est un début, c'est au début des années 2000 que le Dalai Lama a publié ses règles de vie. Non pas des règles coercitives, bien entendu. Ce sont des règles pour vivre une vie sereine, avec compassion, et qui vise le bien-être de tout individu. Nécessairement, ça s'inscrit dans cette chronique spiritualité, bien-être, développement personnel, ésotérisme et, ce terme concis-là, ce titre concis-là. Sans réinventer de la roue, des fois, un petit rappel à l'essentiel, ça peut nous aider pour une existence heureuse pour nous-mêmes. Tu sais, c'est toujours apprécié, appréciable. Voici donc, selon le 14e Dalai Lama, les règles à suivre pour vivre mieux. Tu peux me dire, François, si tu en as envie de dévoilement personnel à la fin, tu peux dire, selon toi, laquelle est la plus importante, laquelle t'aimerais intégrer davantage à ta vie ou laquelle que t'aimes pas pantoute, tu sais, selon. Donc, okay. Papier, crayon, tout le monde.
J'essaie, allez-y.
Tout d'abord, prenez en compte que le grand amour et les grandes réussites impliquent de grands risques. Et comme le risque est impliqué dans chaque grande occasion que la vie nous offre, chaque grande occasion que la vie nous offre, on peut se démarquer de l'ordinaire en non seulement prenant le grand risque, mais en appréciant prendre le risque aussi, et en sachant qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On se comprend? Deuxième règle du Dalai Lama, lorsque vous échouez, n'échouez pas la leçon. Si on oublie ce qu'on a appris à ne pas faire, je vais répéter ça.
On va le refaire.
Let that sink in, qu'on dit en anglais. Là, laissons ça reposer. Si on oublie ce qu'on a appris à ne pas faire, on est condamné à toujours répéter la même affaire. Mm-hmm. C'est comme de ne pas se rappeler qu'il ne faut pas se mettre la main sur le poêle, il ne faut pas rentrer un couteau dans la prise de courant. C'est un peu ordinaire comme reste d'existence. Les seules vraies erreurs sont celles que l'on commet à répétition. Les autres sont des occasions d'apprentissage. Donc, ne craignons pas l'échec, car elle est le précurseur de toute réussite. Il est plus important d'être authentique qu'infaillible. Troisième règle, suivre les 3 R. Selon toi, quelles sont-ils? C'est pas rétrospective ou non, il n'y a pas de...
Je mettrais rire.
OK. J'irai avec toi.
Ouais. Qu'est-ce que... Reposer.
Maurice, oui. En régie, t'as eu un bon point, vas-y donc.
Respect.
Bon, respect. T'es tellement pile dedans, mais rire, c'est super bon aussi, puis tout ça, mais c'est vraiment le respect de soi, respect des autres, parce qu'il y a un vase communicant de ces deux choses-là, et responsabilité de tous nos actes. Être responsable de nos pensées, nos émotions, nos actions, nos gestes, et être responsable de soi, c'est une base.
S'assumer.
Oui, et assumer les conséquences de nos choix également. Quatrième règle, se rappeler que ne pas obtenir ce qu'on veut est parfois un merveilleux coup de chance. Si quelque chose nous est refusé ou qu'on tente à multiples reprises d'obtenir ou d'atteindre quelque chose sans succès, comme si quelque chose agissait contre nous, entre guillemets, là, ça nous est tout déjà arrivé. C'est comme, on dirait que c'est pas fait pour être. On dirait qu'il y a quelque chose, tu sais, là. Lâchons prise, puis essayons un petit peu plus tard. Des fois, ce qu'on veut, c'est pas ce dont on a besoin dans le moment où on le veut. Parfois, ce qu'on veut est pas non plus à la hauteur de ce qu'on pourrait avoir. Fait que des fois, juste se dire... Je lâche prise, puis je verrai ce qui arrive. Des fois, on a des belles surprises qui sont encore au-delà de ce qu'on pensait ou de ce qu'on voulait aller chercher. Et ça me fait tout le temps penser au petit clip que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la maison également, mais ça fait déjà assez longtemps que ça a joué. C'est un petit clip de 1 minute, peut-être un dessin animé. Et ça montre un homme dans un désert qui a très soif. Puis tu sais, des dessins animés où les lignes se transforment en autre chose. Fait que c'est très, très de base, mais c'était super bien fait. Puis t'as tout le temps, il voit un puits ou un verre d'eau ou un seau d'eau. Et là, il veut y aller, puis t'as tout le temps une grosse main qui représente la main de la vie, la main de Dieu, la main de la source, nomme comme tu voudras, la vie, qui est, qu'il qui l'empêche d'aller au saut tout le temps. Puis là, il essaie de passer par-dessus, de passer en dessous, de le tasser. Puis à chaque fois, puis il devient en maudit. Il veut aller au maudit saut. Puis à un moment donné, la main, elle se tanne, puis elle se tasse. Puis il laisse aller à son crime de seau d'eau pour aller boire. Puis il essayait juste de le pousser vers une espèce de méga oasis où, genre, il y avait comme 6 filles qui l'attendaient dans une plage. Qui était à perte de vue, tu sais. Donc, ça m'a énormément marqué. Puis je me suis juste dit, c'est vrai, des fois, on court et on perd notre haleine pour quelque chose, finalement, qui est tellement en deçà de ce qui serait présenté à nous.
En fait, on se focalise sur un arbre alors qu'une forêt.
Exactement. Mm-hmm. C'est si bien dit, François. Apprenons les règles. Ah, ça, je ne sais pas si tu vas l'aimer, ça, là. Apprenons les règles pour savoir comment les transgresser correctement.
Mes réflexes professionnels m'interdisent de commenter plus avant.
Ben, c'est correct. Parce que oui, pour le Dalai Lama, les règles sont faites pour être transgressées. La plupart d'entre elles, dit-il, sont installées par des institutions anciennes, souvent corrompues, et qui ne cherchent qu'à asservir. Par contre, transgresser les règles, ça doit être fait avec précaution pour éviter les représailles. Si on transgresse les règles, faisons-le dans les règles. Mm-hmm. C'est un peu ce qu'il dit. Moi, je l'aime beaucoup, ça, là. Mais ça doit être le trouble positionnel persistant en moi.
En fait, c'est le fondement même de l'anarchie. L'anarchie nous apprend à ne pas accepter une situation pour acquis, à la réfléchir et à soit l'endosser et à respecter la règle, soit à ne pas respecter la règle, mais pour la bonne raison.
Bien, c'est ça, en comprenant ce qu'on fait et non pas simplement pour réagir à quoi que ce soit. Effectivement. Sixième règle du Dalai Lama, ne laissons pas une petite dispute briser une grande amitié. Et pour s'assurer qu'on y arrive, on se réfère à la règle numéro 7 qui dit « Lorsqu'on réalise qu'on a commis une erreur, prenons immédiatement les mesures pour les corriger, à commencer par tasser l'orgueil et la fierté du chemin. Apprendre à se pardonner, apprendre à pardonner à l'autre, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là et ça nous assure que des choses précieuses, telles que des relations de longue date, dont je viens de parler, n'en soient pas les victimes. » Règle numéro 8. Passez un peu de temps seul chaque jour. On parle de 30 minutes. C'est juste ça dont on a besoin. De rencontre avec soi quotidiennement, c'est ce qui est prescrit. Utilisons ces minutes pour observer ce qui se passe dans nos vies, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on voulons faire. Qu'est-ce qu'on voulons. Il commence à me manquer de voyelles. J'ai quelques consonances, j'espère. Et voilà. Alors, de qui nous sommes et de ce que nous voulons, dis-je. Neuvième règle, ouvrons nos bras au changement, mais ne laissons pas s'envoler nos valeurs. Comme le monde est en constante évolution, que rien n'est plus stable que le changement, une de mes phrases préférées, nécessairement, si on ne s'y ouvre pas, on va être certainement malheureux. Donc, on change nous-mêmes, tu sais. Accueillons tous les nouveaux lieux, les nouveaux amis, les nouveaux amours et notre nouveau moi aussi à chaque fois qu'il se doit. Moi, des fois, je regarde comment je me décris puis je me dis, est-ce que ça fait combien de temps que j'ai vérifié ma définition de moi-même? Parce qu'elle n'est peut-être plus à jour. Tu sais, comme je disais, je fais, ah, mais moi, je suis de même. C'est plus vrai, ça. Je suis pas de même. Non, mais c'est vrai. Ça t'est jamais arrivé?
Non, j'évite de me définir moi-même. Je vous écoute parler, puis je me dis, non, j'ai jamais.
T'as jamais. Ben, comment que tu te présentes aux autres? Ben oui, tu sais, François, on parle souvent, puis tu vas me dire, ah, ben moi, je suis comme ça. Ben moi, je suis comme ça. C'est ça, là, la définition, tu vois. C'est pas de faire une liste point de forme à la maison, là. C'est simplement ce qu'on.
Moi, c'est déprimant. On passe à un autre sujet.
Numéro 10, rappelons-nous que le silence est parfois la meilleure réponse. Le silence conduit à la contemplation au cours de laquelle les émotions ont moins d'influence sur nous. On dit souvent qu'un moment de silence dans un élan de colère évite beaucoup de regrets. C'est à peu près ça. 11e règle, vivez votre vie avec honneur, ce qui assure que quand on va regarder en arrière, plus tard sur notre chemin, on va être en mesure d'en profiter une deuxième fois puis d'en retirer une fierté parce qu'on a rien que ça dans la vie quand on se couche à la fin de ce temps qui nous est alloué sur Terre. Et une atmosphère d'amour dans notre maison est le fondement de notre vie. C'est la règle sur laquelle on a peut-être un peu moins de contrôle parce que tu te rappelles, tantôt, on a parlé des 3 R, respect de soi, respect d'autrui et responsabilité. Chacun a la responsabilité de ses propres comportements. Hein? On peut pas tout le temps décider si on a une personne toxique dans notre famille, puis ça va, on a tous quelqu'un en tête, ben, de proche ou de moins proche, mais on peut pas tout le temps tout choisir et on peut pas tout le temps décider tout
Et même ce sur quoi on a un impact, on peut pas toujours être parfait dans tout ce qu'on fait eu égard à ses propres critères. Si on se pardonne pas, on n'y arrive pas. Et Dieu sait que ça m'arrive tout le temps. Moi, je suis très insatisfait d'à peu près tout ce que je fais tout le temps.
Ah, mais ça, il faut travailler ça. Ben, t'es pas obligé, mais ça aide à trouver un moment de satisfaction dans nos vies. Finalement, il y en avait tellement, il y en avait beaucoup plus, mais on se rappelle que lorsqu'on est en désaccord avec des êtres qui nous sont chers, c'est le fun de nous rappeler qu'on revenir dans le présent. Tu sais, c'est cette idée-là, notre conjoint qui arrive un problème ici maintenant, mais là, on se rappelle de tous les problèmes qu'on a essuyés dans le dernier mois, puis on fait une pile. Peut-être rester ici maintenant.
Ça, il y a plein de blagues sexistes sur le sujet. Oui, parce que pour un gars, une chicane, quand c'est fini, d'habitude, c'est fini.
Bon, on pense que c'est une affaire de filles, c'est vrai, mais moi, je pense c'est que c'est féminin, très humain. Moi, je pense que c'est très humain.
C'est humain, bien sûr.
Oui, c'est ça. Moi, je pense que... Partageons nos connaissances, parce que c'est une ressource, les connaissances, qui est multipliée quand on les donne. Surtout ce qui a mal été. Partager nos échecs, ça peut aider quelqu'un à ne pas les vivre de la même façon que nous. Soyons doux avec la terre, parce qu'elle est notre maison, et c'est une évidence, j'en rajouterai rien. Une fois par an, aussi souvent que possible, allons quelque part où nous ne sommes jamais allés. Donc, après accepter le changement, pourquoi pas en créer? Puis qui sait ce qu'on va découvrir en explorant le ailleurs avec une ouverture d'esprit. Rappelons-nous que la meilleure des relations est celle dans laquelle notre amour pour l'autre dépasse notre propre besoin. Et là, je mets un bémol, ça ne veut pas dire de piler sur ses besoins par amour pour l'autre. Hein? Des fois, on a des relations toxiques, encore une fois, qu'on ne peut pas tout accepter par amour.
Symétrique, oui.
Exactement. Mais ce n'est pas du tout ça que le Dalai Lama veut dire. Ce qu'il veut dire, ce que cette règle stipule, c'est que la journée où notre besoin de l'autre dépasse l'amour qu'on a de l'autre, c'est temps que la relation s'arrête parce que là, on est rendu dans une relation de dépendance. Donc, s'assurer d'aimer l'autre et de ne pas en avoir besoin. Et quand on peut avoir besoin, mais il ne faut pas que ça dépasse l'amour.
Et comment mesurer ça? C'est toujours ça le problème. Si vous avez un guide épistémologique qui me permettrait d'arriver.
Moi, je pense que du discernement, des fois, on le sait qu'on a dépassé une petite limite quand même.
Si j'étais capable de faire discernement en amour, j'aurais réglé beaucoup de problèmes.
Ben finalement, jugez vos réussites d'après ce à quoi vous avez dû renoncer pour y arriver et non pas la chose sur laquelle vous misiez. Ou ce que vous considérez, vous, comme une réussite, c'est les nouvelles règles du Dalai Lama pour vivre une vie heureuse. Est-ce qu'il y en a qui t'ont percuté plus que d'autres?
Peut-être celle sur le respect, bien sûr.
Oui?
Les trois. J'aime bien le concept de respect, personnellement. Oui, je l'aime chez les autres, mais... non, bien sûr.
Mais t'es quelqu'un de respectueux aussi, quand même.
Je pense. Écoute, moi, je tutoierais pas quelqu'un comme ça, allègrement.
Quand même!
In the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pull in for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here. Cena says right on, making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre, how bizarre, how bizarre.
Every time I look around, yeah. Every time I look around. every time I look around.
Every time I look around, it's in my face.
OMC qui nous chante How Bizarre. À quel point c'est bizarre, c'est ce qu'on peut se poser avec ta prochaine chronique, François.
Oui, parce que je vous l'ai dit un peu plus tôt, je suis juriste, j'aime la justice, j'aime le phénomène de justice, j'aime le droit, j'aime la belle logique qui s'articule autour de ça, et j'aime même la stupidité qu'on réussit à faire en mettant en œuvre cette belle logique-là. Et il y en a plein, il y en a plein. Il suffit d'ouvrir Internet pour trouver plein de choses. Par exemple...
insolites qui concernent le juridique, le judiciaire.
Je commence en vous parlant d'un Algérien à New York qui était incarcéré depuis 5 mois avant que quelqu'un l'informe que sa caution avait été fixée à 2 $. Il avait été arrêté pour vol de manteau. Il avait résisté à son arrestation. On l'avait mis en dedans avec une caution de 25 000 $. On s'aperçoit que la preuve pour le vol de manteau n'est pas trop bonne. C'est qu'on dit on va le laisser sortir. On fixe la caution à 2 $, mais la lettre qui devait l'aviser lui est jamais arrivée. C'est que lui, il a attendu son procès en prison, voilà. Et il est resté 5 mois en prison alors qu'il aurait pu sortir en mettant 2 $ à la sortie. Tout simple, tout bête. Pour mémoire, il a été arrêté l'année suivante et ce coup-là, le prix de sa caution a été fixé à 30 000 $, ce qui réglait le problème. Sinon, il y a les bons vieux Stella Liebeck. Qui est Stella Liebeck? Ben, en fait, elle a donné son nom à toute une catégorie de procès ridicules aux États-Unis. Stella Liebeck, c'est cette personne qui s'est ébouillantée avec un café chez McDonald's. Donc, elle a renversé sa tasse et elle l'a trouvé trop chaud. Elle a donc poursuivi McDonald's parce que son café était chaud. Et donc, elle a obtenu pour ça 2,9 millions de dollars. Voyez-vous,
c'est... Mais sur quel argumentaire?
McDonald's faisait du café trop chaud. On aurait dû avertir que le café était chaud, prévoir, puis avoir une structure de sécurité faisant en sorte qu'on ne pouvait pas s'ébouillanter avec un café.
Et c'est là que sont apparus les porte-verres, attention, c'est chaud.
Voilà, et c'est ce qui fait d'ailleurs que Tim Hortons, cette année, a cassé la baraque son gobelet où il était écrit « Si on était dans un autre pays, il serait écrit ici que la boisson à l'intérieur peut être chaude.
» C'est quand même un bon coup de leur part.
Je vous parle aussi de Cara Walton. Tiens, Cara Walton, elle a obtenu 12 000 $ parce qu'elle est tombée de la fenêtre d'un bar, plus précisément de la fenêtre de la toilette d'un bar par laquelle elle essayait de s'échapper du bar pour ne pas payer sa consommation de 3 $50. Elle a donc poursuivi le bar et obtenu 12 000 $.
Ben non, en plus de faillir te faire voler, il faut que tu payes quelqu'un qui voulait te voler. Ça, c'est spécial.
Mm-hmm. Vous avez aussi cette personne qui a touché 113 500 $ après avoir glissé dans un restaurant de Pennsylvanie. Elle a glissé, en fait, dans une flaque de boissons gazeuses. Bon, ça, faute d'entretien, me direz-vous. Ouais. Mais si la flaque de boissons gazeuses n'avait pas été imputable au fait qu'elle a lancé son gobelet de boisson à son conjoint l'instant d'avant, ça ne serait probablement pas arrivé, voyez-vous.
Seigneur!
Oui, Kathleen Robertson, lui, dans la même veine, a obtenu 780 000 $ dans un magasin après avoir buté dans un enfant et donc être tombée parce que les enfants couraient dans le magasin. Celui-là était le sien, incidemment. Mais...
Mais comment tu te couches le soir, maintenant, avec ta conscience?
Plus riche.
À ce prix-là,
la conscience, elle ne rentre plus le livre de banque, prend sa place.
Hey.
Vous avez aussi Terence Dickinson. Terence Dickinson, lui, il n'est pas chanceux, Terence Dickinson. Il a eu 500 000 $ parce qu'il restait enfermé dans le garage. La commande du garage pour ouvrir la porte ne fonctionnait plus.
Mais quelle autre information on a besoin sur cette situation?
Il était là pour cambrioler.
Okay.
Mais si la porte du garage aurait fonctionné, il aurait fini son cambriolage comme ça en sécurité. Mais là, il a survécu en mangeant de la bouffe à chien. C'est pour vous dire quelle horreur. Alors, il a obtenu 500 000 $ pour ça, jusqu'à ce que le petit couple qui était en vacances lui revienne de ses vacances et le trouve dans le garage.
Ah, je ris d'être de ces drôles, puis c'est tellement pas drôle en même temps.
Non, mais c'est d'un bête, c'est affligeant parfois.
C'est quelque chose.
Je peux aussi vous parler de cet homme qui a obtenu c'était combien? C'était 74 000 $ de dédommagement et frais de médicaux après que son voisin lui ait roulé sur la main avec son auto. Il semblerait que le voisin n'ait pas remarqué qu'on était en train de lui voler ses enjoliveurs. Quelle horreur! C'est fou!
Voyons.
On a aussi, oui, Christopher... Christopher Roller.
On dirait que tu étais plus sûr de vouloir la dire.
Oui, Christopher Roller, il se prend pour Dieu. Alors, Christopher Roller a sommé David Copperfield et un autre magicien de révéler ses trucs, de révéler leurs trucs de magie, parce que sans ça, ça ferait d'eux des dieux, et donc il lui devrait des droits d'auteur, puisque c'est lui, Dieu. Bon, lui, par contre, il faut dire, la justice ne lui a pas donné raison. On se demande vraiment pourquoi. Vous avez en France un type qui était...
Bon, moi, c'était un gars s'essaye. Hein? Quand on ne demande pas, on ne reçoit rien. C'est ça, le
oui. En France, il y a un homme qui devait subir son procès pour vol à l'étalage. Il avait volé un chandail Fubu. Et il s'est pointé au procès avec le chandail Fubu sur le dos. Alors, ben, il a été condamné. On se demande vraiment pourquoi. En Allemagne...
Il est un petit peu baveux, quand même. Hein? Non, mais, ça prend du front.
Ou alors, tu n'as vraiment pas de vêtements. Là. Ça va vraiment mal.
Ou tu n'as pas de choix, effectivement.
En Allemagne, Nutella, on va la nommer, la sympathique compagnie
la
de
marque,
Tartinade,
oui, voilà.
Avait décidé de profiter du mondial pour mettre en place une promotion. C'est-à-dire, vous achetiez un pot de Nutella, vous avez des points, et avec les points, vous pouviez avoir un magnifique ballon de foot sur lequel étaient imprimées toutes les signatures de la Mannschaft, l'équipe allemande de soccer. C'est assez fascinant, mais la justice allemande ne l'a pas trouvé drôle. Pourquoi elle ne l'a pas trouvé drôle? Parce qu'il aurait fallu, pour avoir assez de points, 35 pots standards, ce qui veut dire 15,75 kg de Nutella, donc 9 kg de sucre, 5 kg de graisse, 85 000 calories, et près de $150. Alors, la justice allemande a sévi parce qu'elle a estimé que d'inciter les enfants à consommer autant de cochonneries, ça n'avait aucun sens.
Mais j'avoue que la condition préalable à gagner un tel prix est d'ordinaire. Tu sais, des fois, tu peux te questionner.
Ouais, il n'y avait pas de risque qu'un enfant en santé réussisse à jouer avec ce ballon-là. En tout cas... C'est à peu près certain. Je vous amène en France, mais j'aurais pu vous amener à Montréal avec celle-là parce que ça aurait pu se produire chez nous. Il y a des gens, un homme en fait, qui dans le métro, c'est le métro de Lyon, avait entrepris de défaire les bancs dans le métro, mais pas juste les bancs, les accoudoirs. Parce que ces accoudoirs-là empêchaient les gens de se coucher. Ils trouvaient ça cruel d'empêcher un SDF d'aller dormir dans le métro. Alors, il a été arrêté pour méfait. Donc, il s'en est effectivement pris du mobilier public. Et sa défense, c'était de dire, qui ici a un méfait, là? Moi qui veux que les gens s'en servent ou l'État qui prend mes impôts pour empêcher les plus pauvres de dormir sur le banc de métro? Il a été acquitté.
Bon!
Alors, dans la même veine, la Cour de cassation italienne nous rapporte que c'est Roman Ostriakov qui avait volé un petit bout de fromage et un morceau de saucisse, oui, pour se nourrir à Gênes. Il a été accusé pour ça, parce que quelqu'un l'avait vu faire, il est arrêté, on l'a accusé, on l'a condamné. C'est allé en appel, c'est allé en cassation, et on l'a cassé en cassation. Mais rendu là, la couronne italienne, le parquet, comme on l'appelle là-bas, s'est posé la question, écoutez, ça valait 4 euros, et on doit être à 70 ou 80 000 $
de frais
pour finalement acquitter ce qui était une nécessité, parce que la personne était vraiment, vraiment démunie et n'avait pas mangé depuis beaucoup trop longtemps.
Hey, ben c'est, on ne sait pas si on rit, on pleure, on est en colère, mais certes, il y en a pour tous les goûts. Merci François d'avoir été à mes côtés pendant cette heure et demie. Merci de m'avoir accueilli chez toi ce matin. Merci à Maurice Bolduc en régie. Merci à Louis Garon à la coordination, Claire Guérin à la recherche. Merci tout le monde et on se retrouve pour une autre édition d'Aime l'été demain, 11h30.